Heureux d'être en vacances, heureux de partager la parole de Dieu, c'est si on prêche, c'est parce qu'on vit. On vit Jésus-Christ, il vit en nous, il est avec nous tous les jours et c'est le témoignage. Hein, le Seigneur nous invite à prêcher en toute occasion, favorable ou non, et on est heureux de l'annoncer, d'annoncer Jésus-Christ, son royaume. Voilà, on est quelques jours en vacances, on retourne sur Montauban, mais nous allons partir sur Agen, sur l'Assemblée de Dieu d'Agen. Donc, on est heureux, il y a des âmes là-bas aussi. Hein, donc, on a notre place là-bas, mais voilà, on bénit Dieu pour sa présence, sa bénédiction. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, que nous étions sur un projet de changement de local sur Montauban, et nous avions reçu une parole qui disait « Vous n'aurez pas les prêts, commencez les travaux avec ce que vous avez et l'argent que vous auriez mis sur un prêt, eh bien, vous le mettrez pour le soutien d'un ministère. » Alors c'est facile hein, de recevoir une parole comme ça, mais après il faut la foi, parce que quand Dieu parle, eh bien, après, voilà. Donc, nous avions un bâtiment qui valait 300 000 euros. Nous avions 300 000 euros en caisse et il nous manquait 300 000 euros. Donc on a commencé les travaux, mais quand on commence les travaux, eh bien la cagnotte, il y a de moins en moins de noisettes dedans. Et il arrivait un moment où on commence à se poser des questions et des doutes qui viennent. Mais quand les doutes viennent, le Seigneur eh bien rappelle sa parole, soutient. Et aussi, le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir. Et il confirme sa parole. Et donc, au mois d'octobre, nous avons présenté les comptes. Ce qu'il restait à financer pour finir ces travaux, il manquait 250 000 euros. Alors on était à réfléchir, est-ce qu'on fait un prêt ou pas? Il y a eu quelques pressions. Et déjà le 13 octobre, le Seigneur m'a parlé au travers d'un texto. Alors ça ne veut pas dire que vous devez allumer votre portable là ce soir. Mais il m'a parlé au travers d'un texto, une sœur qui me disait « Philippe, il ne faut pas faire de prêt parce qu'il va y avoir une crise économique sans précédent. » Et quand on reçoit une parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, eh bien, nous parle à nos cœurs. Et le 13 octobre, il n'était pas question de coronavirus et une crise économique, c'était un petit peu... On pouvait ne pas y penser. Mais là, vraiment, j'ai dit à mon épouse, ça c'est Dieu qui me parle. Donc j'ai laissé tomber cette histoire de demande de prêt. On a laissé tomber et puis finalement, Dieu a répondu. Une belle histoire. Une belle histoire, une famille dans les années 30 qui est arrivée en France à cause de la crise politique en Espagne. Une famille modeste. Sont arrivés dans la région de Montauban. La dame, la maman de cette famille, a commencé à faire des ménages chez une famille richissime. Et de cette famille richissime, les gens se sont éteints au fur et à mesure. Et en 1975, la dernière personne de cette famille a légué toute sa fortune à cette dame qui faisait le ménage chez ces gens-là. Et cette dame était membre de l'Assemblée de Dieu de Montauban. Cette dame avait un fils, et un fils unique. Il n'y avait pas d'autre personne dans la famille. C'est à ce moment-là que ce fils unique a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et elle a donné sa vie au Seigneur Jésus, et sa maman, en 1988, est décédée, en lui laissant ce message que cet argent, c'était l'argent du Seigneur. Et cet homme, de 88 jusqu'à sa mort, a vécu avec ce qu'il avait. J'ai pu voir ce qu'il gagnait parce que je m'occupais de lui. Et il gagnait 580 euros par mois. Voilà, il vivait avec ça. Et ce monsieur est tombé malade. On s'en est occupé. Je suis allé plusieurs fois chez lui. C'était un peu insalubre. Et je me disais même, on s'était dit avec mon épouse, qu'on allait le soutenir. Donc ce monsieur, je lui achetais ses couches. Je lui achetais ses vêtements. Je disais à mon épouse, on ne va pas se faire rembourser. Parce qu'il n'a pas de moyens. Et puis, ce monsieur est décédé le 21 mars cette année. Et le 23 mars, c'est mon anniversaire, vous vous rendez compte? Le 23 mars, je vais chez lui pour les papiers, pour les obsèques, pour tout ça. Et puis, je découvre quatre dossiers d'assurance vie. Et ce monsieur, eh bien, toute cette fortune, il l'a laissée à l'Assemblée de Dieu de Montauban. Et en fait, il y a plus du double de ce qu'on a besoin. Pour vous faire imaginer un petit peu, eh bien, ça, Dieu parle et Dieu répond. Alors là, c'est matériel. De toute façon, ce bâtiment, il partira. Hein, on n'est pas là. L'Église sont des pierres vivantes. Mais pour vous dire que encore aujourd'hui, Dieu veut répondre aux besoins. Et c'est pourquoi moi je suis heureux de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, parce que je sais que Dieu agit. Et le but, déjà le premier but de Jésus, eh bien, c'est d'apporter le salut dans les cœurs. Ce soir, vous êtes peut-être venu chercher une guérison. Peut-être qu'au niveau financier, ça ne va pas. Peut-être que dans votre couple, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a des heurts avec vos enfants. Ça ne va pas dans votre travail. Mais avant tout, ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ ce soir, c'est votre cœur. C'est votre cœur. Et si ce soir vous arrivez à trouver le royaume de Dieu et sa justice, il vous donnera tout en retour. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Ce soir, si vous êtes connecté au ciel, vous allez découvrir en Dieu un Père qui est dans le ciel, mais qui connaît vos besoins et qui est capable d'y répondre selon sa volonté et selon ses moyens. Moi, je m'attendais, parce que je croyais à la parole qu'on avait reçue, je m'attendais à un oncle d'Amérique. Et c'est la personne la plus pauvre de l'Église que Jésus a choisie pour bénir son Église. Quelqu'un qui n'avait pas de famille, autrement dit, il n'y a aucune famille dans l'Assemblée de Dieu de Montauban qui peut se glorifier d'avoir fait quelque chose, parce que Dieu en a décidé ainsi. Et ce soir, eh bien, si vous voulez vous mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir combien il est extraordinaire. Tout à l'heure, Emmanuel parlait de cette dame qui a pu se dire dans son cœur, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, est-ce que vous trouvez que c'est un moyen de trouver la guérison, vous, ça? C'est pas du tout ça. Mais elle a mis sa foi et elle savait que en Jésus, il pouvait se passer quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il ne faut pas raisonner, réfléchir de comment Jésus-Christ va faire ce soir dans votre vie, mais simplement laisser les rênes de votre vie et le laisser agir, lui. Je ne sais pas si vous connaissez la Bible, mais le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, quand il allait pour sortir d'Égypte, ils se sont retrouvés bloqués à un moment donné. Une difficulté. Ils sont tous là face à eux, alors qu'ils sont en train de partir, de sortir de l'esclavage. Face à eux, il y a la mer. Sur le côté, il y a des joncs, avec certainement dans les joncs, peut-être des crocodiles, des choses comme ça. Et au loin, eh bien, il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu permets, Seigneur, que je prenne les plus vaillants et puis on va combattre les Égyptiens? Eh bien non, le Seigneur dit, tu prends ton bâton, Moïse, et puis tu le mets un peu dans l'eau comme ça. Et Moïse a obéi simplement, et le miracle a eu lieu. C'est l'obéissance aussi. Et ce soir, je crois que Dieu peut faire des miracles dans nos vies, dans votre vie, si simplement vous êtes à l'écoute de ce que Dieu va vous dire, et si vous êtes dans l'obéissance, dans l'obéissance. Moi, je me mets à la place de Moïse quand même. Le Seigneur lui dit, mets ton bâton dans l'eau. Seigneur, attends, ils arrivent là. Ils arrivent, mets ton bâton dans l'eau. Même extraordinaire, un aveugle. Comment guérir un aveugle? Jésus crache dans la poussière, il fait de la boue. Et l'aveugle n'a pas raisonné. Ce soir, je vous invite à pas raisonner. Alors, je vous invite à prendre simplement un verset. Un verset dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 13 et au verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si on peut revenir en arrière, peut-être tu as mis le. Si tu peux revenir sur la première diapo. Il est question du royaume des cieux. S'il y a un royaume, qui commande un royaume? C'est un roi. Et la parole de Dieu nous révèle que ce roi, c'est Jésus-Christ. Un roi, le roi des rois, celui qui règne sur le royaume. La Bible nous dit que, eh bien, Jésus a reçu toute autorité dans les cieux, mais aussi sur la terre et sous la terre. Et même s'il y a des autorités dans cette terre, des autorités spirituelles, qui ont des pouvoirs, la Bible nous dit que Jésus-Christ sur la croix, eh bien, les a mis en spectacle. Aussi, eh bien, sur tout problème, eh bien, Jésus-Christ a autorité. Le Seigneur Jésus-Christ dit concernant le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qu'il fait connaître à ses disciples, à ceux qui veulent bien, eh bien, s'approcher de Jésus, à ceux qui veulent bien suivre Jésus. Il veut faire connaître les mystères du royaume de Dieu. La Bible nous montre aussi que nous devons être en quête du royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux? Quand on considère un royaume, si on parle du royaume du Danemark, vous allez dire, ben, le royaume du Danemark, ce qui représente le royaume, c'est ceci, c'est cela, c'est tel symbole. En Espagne aussi, eh bien, c'est un royaume, il y a des symboles. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, eh bien, pour le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est question de sainteté, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, eh bien, ce n'est pas quelque chose que l'on voit, mais c'est quelque chose qui rayonne. Pilate, avant de donner, eh bien, cette décision de crucifier Jésus, a eu cette discussion. Et Jésus a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Toi, tu penses avoir autorité, mais de mon royaume, tu n'as aucune autorité. Oui, Jésus est réellement le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La Bible nous montre que ce royaume se répand, eh bien, par l'annonce de la parole de Dieu. Jésus enseigne à ses disciples, eh bien voilà, un semeur, eh bien, est sorti pour semer. Et cette semence, elle est répandue sur différents terrains. Et il révèle à ses disciples que, eh bien, ces terrains, ça correspond à nos cœurs. Il y a certains cœurs qui sont endurcis. Et la semence, quand elle vient, eh bien, le soleil vient dessus et elle ne peut pas pousser. Et certains, eh bien, c'est dans les broussailles. Et le Seigneur montre que ces broussailles, ça correspond aux soucis de la vie. Et parfois, les soucis, si, eh bien, on ne les confie pas à Dieu, eh bien, la semence, la parole de Dieu est étouffée et elle n'a aucun effet dans nos vies. Et ce qui est beau de voir, c'est que, eh bien, cette semence, quand elle tombe dans une bonne terre, un cœur qui est réceptif, eh bien, elle peut donner du bon fruit. Le royaume de Dieu se répand comment? Grandit comment? Ce n'est pas par des conquêtes de guerre, ce n'est pas par, eh bien, des achats de terrain, mais c'est simplement lorsque un homme, une femme découvre l'évangile de Jésus-Christ, décide de se repentir de ses péchés, décide de changer de vie et de suivre Jésus-Christ. Chaque fois qu'un homme, une femme se convertit à Jésus-Christ, le royaume de Dieu grandit. C'est la révélation de la Bible, de la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, et Jésus le montre par une parabole, un grain, une petite semence, le grain de sénevé, qui paraît tout petit. Mais lorsqu'il est planté en terre, eh bien, il devient le plus grand des arbres. Autrement dit, bien, ce soir, cette semence, cette petite semence qui est là, si vous ouvrez votre cœur, elle peut manifester la puissance de Dieu. Amen. Peut-être que cette réunion ce soir paraît insignifiante. Mais la parole qui est semée dans votre cœur, la semence qui est là, avec l'action du Saint-Esprit, eh bien, cette semence manifeste la puissance, la grandeur de Jésus-Christ. Alors revenons, pas à nos moutons, mais à notre verset. Un homme est sorti et il a trouvé dans un champ un trésor caché. Alors quand on parle de trésor, ça vous fait penser à quoi, vous ? De l'or, oui. Quoi encore ? Comment ? De la richesse, des diamants, quoi encore ? Allez, dites ce que vous avez dans le cœur. Des bijoux. Alors regardons bien. Regardons bien et plongeons nos regards sur réellement ce que Jésus-Christ a voulu dire. Ce mot trésor, un trésor caché dans un champ, la réalité c'est que ce n'est pas ce qu'il y a dans le coffre, mais c'est le coffre lui-même. Le mot trésor qui est utilisé, c'est thésauros, qui a donné thésauriser. Autrement dit, ce mot, eh bien, c'est le lieu dans lequel les biens, les choses précieuses sont conservées. Lorsque cet homme vient dans le champ, il trouve certainement eh bien, un coffre qui est peut-être recouvert par de la terre, mais il ne trouve pas des diamants, de l'or, des bijoux, mais il trouve un coffre. Il trouve un coffre, une cassette. Ça vous rappelle l'avare, Louis de Funès, hein ? Un coffre. C'est un réceptacle pour les valeurs, magasin, un dépôt, un entrepôt. Voilà la signification de ce mot. Alors parfois, c'est vrai que bien quand on lit vite, on a de fausses interprétations. Alors si on reprend bien ce verset, ça prend tout son sens. Et rien que dans ce verset, il y a le message de l'Évangile en entier. Le trésor, un trésor. La Bible nous parle aussi, de trésor. Jésus parle de trésor. Dans Matthieu 12, 34, 36, il dit « race de vipère ». Quand on parle comme ça, c'est un... « Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Ça veut dire quoi, ça ? Cet homme est sorti dans le champ et il a trouvé une cassette, un coffre, quelque chose en bois qui était caché, qui était recouvert. Mais pour nous, l'image, c'est l'image de notre cœur et non pas ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est l'Évangile. La parole de Dieu nous dit et nous montre Dieu qui parle comme à un fils. Il parle aux hommes, il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu veut transformer ce qu'il y a dans notre cœur. Et peut-être ce soir, il est bon de réaliser ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce qu'il y a des bonnes choses ? Est-ce que mon cœur est rempli de paix, d'amour, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de maîtrise de soi ? Ou est-ce que mon cœur est rempli de tristesse ? Est-ce que mon cœur est rempli d'amertume ? Est-ce que mon cœur est rempli de haine ? Peut-être qu'il est bon de réfléchir ce soir. Mais nous voyons que l'image de ce trésor, ce coffre, c'est l'image de nos cœurs et pas ce qu'il y a dans nos cœurs. L'homme qui l'a trouvé. Jésus parle de lui, tout simplement. Dans Luc 19, 10, Jésus dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cet homme qui rentre dans ce champ, qui trouve ce trésor perdu, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Et ce soir, eh bien, on peut chacun de nous dire, eh bien, c'est ce coffre, ce trésor, c'est moi. Et Jésus est venu jusqu'à moi pour me chercher, pour me sauver. Et il m'a trouvé. Et ce soir, il veut vous trouver. Il est venu spécialement pour ça. Quand on réfléchit, Jésus, c'est Dieu lui-même. Il était dans son ciel de gloire. Et la Bible nous dit, nous révèle qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour beaucoup. Et pour nous, pour chacun de nous, pour moi, pour vous, Jésus est venu, il a quitté son ciel de gloire. Et il est venu pour nous chercher, pour nous sauver. Ce soir, c'est un beau hasard que vous soyez là. Ce n'est pas un hasard. Comme lorsque Jésus a rencontré Zachée, il est venu, et c'est ce qui correspond à ce verset de Luc 19-10, la Bible nous dit comme il fallait qu'il passe par Jéricho. Jésus, il fallait qu'il passe par Jéricho parce qu'il voulait sauver Zachée. Et ce soir, eh bien, si vous entendez cette prédication, eh bien, il fallait que vous soyez là. Et Jésus, il fallait qu'il soit là pour vous, tout simplement. Amen. Vous y croyez à ça, vous ? Moi, j'y crois. Quelque chose d'étonnant dans ce que nous avons lu tout à l'heure, un homme trouve un trésor caché. C'est une chose, dans un champ. Et c'est écrit, l'homme qui l'a trouvé le cache. C'est étonnant ça, non ? L'homme qui l'a trouvé le cache. Eh bien, c'est tout à fait ce que Jésus a fait dans ma vie. Jésus est venu me chercher pour me sauver. Mais lorsqu'il m'a trouvé, lorsqu'il a trouvé mon cœur, l'état de mon cœur et ce qu'il y avait dans mon cœur, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a pris tout simplement. Il m'a nettoyé et il m'a recouvert par son précieux sang. Il m'a recouvert par son précieux sang. Et c'est son œuvre. Il est venu pour cela. La Bible nous dit que Dieu est saint et dans sa présence, il ne peut pas y avoir d'iniquité, d'impureté, de péché. C'est pourquoi Jésus est venu sur cette terre, pour agir, pour faire une œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Il est venu pour nous purifier de tout péché. Il est venu nous chercher pour nous sauver, tout simplement. Et la Bible nous révèle qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Et ce soir, eh bien, Jésus veut régler ce qui ne va pas dans nos cœurs. Il veut révéler, nous le révéler à nous. Et si ce soir, eh bien, on règle cette chose-là, si on réalise, dire, oui Seigneur, c'est vrai, ce n'est que méchanceté dans mon cœur, que mauvais sentiments, la colère, la haine ou la tristesse, ces choses-là, ce ne sont pas de toi Seigneur. Je le réalise et Seigneur, je viens à toi pour que tu puisses me nettoyer, pour que tu puisses me couvrir par ton précieux sang. Eh bien, il va le faire. Amen. Il va le faire. Et la révélation de ce qui est caché dans mon cœur ce soir, si je m'approche de lui et si je lui donne ces choses-là, eh bien, c'est découvert devant lui. Mais si ce soir je ne le fais pas, ça sera découvert devant tout le monde, un jour. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce soir, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, mais vraiment venez à lui. Il veut faire une œuvre merveilleuse. Cet homme est venu, il a trouvé eh bien, ce trésor caché, mais il ne l'a pas recaché avec ce qu'il y avait, la terre qui était là. Mais il l'a nettoyé et il l'a recouvert avec quelque chose eh bien, qui ne peut plus corrompre à nouveau ce coffre. Parce que le désir de cet homme, c'est de remplir ce coffre de bonnes choses. Enlever peut-être tout ce qui est mauvais. Je ne sais pas depuis combien de temps était ce coffre dans le champ. Mais il a enlevé tout ce qui était mauvais. Et il est prêt à mettre de belles choses. Oui, ce qui correspond au trésor que nous avons décrit tout à l'heure, de l'or, de l'argent, des diamants, toutes ces choses-là. C'est ce que cet homme est venu eh bien, récupérer ce coffre caché, il est venu pour le nettoyer, le recouvrir, afin de bien le remplir en suivant. Dans sa joie, cet homme a trouvé le coffre, il l'a nettoyé, il l'a caché à nouveau, et il nous dit que dans sa joie, il est parti pour vendre tout ce qu'il avait dans sa joie, dans sa joie. Ce soir, si vous donnez votre cœur au Seigneur Jésus, ou ce soir, si vous revenez au Seigneur Jésus-Christ, il y a de la joie dans le ciel. C'est ce que dit la Bible, hein. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Et pour un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans l'Église. Amen. Alléluia. Un pécheur qui se repent. Juste avant le confinement, on a eu un temps d'évangélisation. Et puis, il y avait une famille qui était là, de toute nouvelle. Et alors, j'ai prêché l'Évangile de tout mon cœur. Et puis, je fais un appel. Et là, je voyais dans l'assistance un papy, un pasteur à la retraite, 104 ans. Et je le voyais, il essayait de se lever, Alors comme on était dans une maison de retraite, je me suis dit, peut-être que le papy veut aller se coucher, c'est un peu tard. Et alors j'étais peiné parce que je le voyais, il essayait de se lever, et puis j'étais en train de faire l'appel, je ne pouvais pas aller l'aider. Et puis d'un seul coup, il a réussi à se lever. Et puis il s'est approché à l'appel. Je ne comprenais pas. Un pasteur, 104 ans. Alors je m'approche de lui. Et puis je lui dis, vous êtes malade ? Il me dit non. Mais lorsque j'étais adolescent, chez mes parents, il y avait dans le couloir un Bouddha. Et ce Bouddha a toujours perturbé mon entendement, mes pensées. Et il était encore perturbé par cela à 104 ans. Et il m'a dit, j'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin qu'on prie pour moi dans cela. Et on a prié pour lui et il a trouvé la paix dans son cœur. Amen. Alléluia. Et il y avait de la joie dans l'église ce soir-là. Alléluia. Amen. Alors il n'y a pas d'âge. Ça aurait été un enfant de 5 ans, ça aurait été pareil. Mais dans la joie, lorsqu'on a cet élan de venir vers Jésus avec un cœur repentant, il y a de la joie dans l'Église, dans le ciel. Amen. Et puis, ce texte nous parle réellement de l'œuvre de Jésus à la croix. Cet homme trouve ce coffre. Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Il a trouvé nos cœurs. Et puis, il a agi. La Bible nous dit qu'il nous a purifiés de tous nos péchés par son précieux sang. Et puis cet homme, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Et ça nous montre et ça nous fait considérer ce qu'est l'œuvre de Jésus à la croix, pour nous personnellement. Jésus n'est pas venu monter une armée. Jésus est venu personnellement pour chacun de nous. Jésus est venu manifester l'amour de Dieu, son Père. On connaît ce verset, cette parole que Jésus a dit à Nicodème, à un homme religieux, un homme qui avait une connaissance. Et Jésus a pu lui dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternel. Dieu a donné son Fils unique. Cet homme, pour ce coffre où il n'y avait rien de bon, est parti et il a tout vendu. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, 2, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Jésus-Christ a souffert pour chacun de nous. Jésus-Christ a pris son péché, mon péché, sur lui en mourant sur la croix. Paul dit encore aussi, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Jésus a payé le prix. Cet homme, pour un coffre, qui peut-être n'avait pas de valeur, qui était peut-être piqué par de la vermine dans ce champ, cet homme a tout donné, a tout vendu pour ce coffre. Je ne mérite rien, Je ne mérite rien. Mais Jésus a donné sa vie pour moi. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez rien. Mais Jésus a donné sa vie pour vous. Et ce soir, cette rencontre, elle est pour vous. Comme cet homme a trouvé ce coffre, et certainement il avait une perspective pour ce coffre, le nettoyer, le couvrir et le remplir de belles choses, de choses précieuses. Et ce soir, eh bien, c'est pour vous, cette expérience, elle est pour vous. Le Seigneur veut nettoyer votre cœur. Il en a le pouvoir. Son précieux sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Il a le pouvoir de nous guérir. Son corps a été meurtri pour que nous soyons guéris. Amen. Serait-ce une blessure dans le cœur? La Bible nous dit que Jésus est le réparateur des brèches. Peut-être un problème de couple, des relations difficiles avec un enfant. Jésus est le réparateur des brèches. Mais ce qui lui importe ce soir, c'est que vous vous laissiez trouver. Jésus est venu chercher le coffre qu'est votre cœur pour le nettoyer, pour le réparer et pour le remplir de choses précieuses, d'un héritage qui ne peut pas se corrompre. Alors je vous invite à fermer les yeux quelques instants et on va prier. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, mon roi. Jésus-Christ. Seigneur, tu as pu dire à tes disciples, en expliquant les paraboles, que le champ, c'est le monde. Et c'est vrai que, avant de te connaître, je faisais partie du monde. J'appartenais au monde, Seigneur, avec toutes ses convoitises. Seigneur mon Dieu, oui, avec la convoitise de la chair et aucune perspective pour l'éternité. Mais Seigneur, ce soir, au travers de ce que nous avons partagé, Seigneur, je reconnais que tu es venu dans ce monde. Tu es venu pour me chercher. Et tu m'as trouvé. Et tu m'as sauvé, Seigneur. Et alors que, eh bien, j'étais peut-être brisé, cassé, sans valeur, avec des mauvaises choses dans mon cœur, tu as transformé ma vie, Jésus. Tu m'as fait passer de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres de Satan à ton admirable lumière. Seigneur mon Dieu, et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je peux le proclamer parce que tu as tout accompli pour moi, Seigneur mon Dieu. Eh bien, je n'ai plus peur de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je bénis ton nom pour cela. Seigneur, je suis heureux de pouvoir aussi voir le témoignage et l'œuvre que tu as fait dans la vie de mes frères et sœurs. Seigneur, c'est glorieux, c'est merveilleux et nous voulons nous réjouir. Seigneur, et nous savons que tu as choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et ce soir, je bénis ton nom parce que tu nous as permis d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aussi dans ce moment, Seigneur mon Dieu, je veux prier, Seigneur, pour peut-être des personnes qui sont là et qui ont besoin d'une intervention de ta part dans leur cœur. Seigneur mon Dieu, tu es présent, Seigneur. Toi, tu as accès au cœur. Seigneur, et nous voulons te bénir. Seigneur, nous savons que ton précieux sang a coulé sur la croix pour que nous soyons purifiés de tous nos péchés. Et tu nous couvres par ton précieux sang. Tu nous purifies, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Seigneur mon Dieu, sois élevé pour ton œuvre dans les cœurs. J'aimerais qu'on reste